Chapitre 9. Article ajouté au registre de famille. Ce premier moment de renonciation et de soumission fut suivi de violentes luttes dans l'esprit du meunier, à mesure que le retour graduel de ses forces lui rendait la possibilité d'envisager les conditions nouvelles dans lesquelles il se trouvait. Des membres faibles supportent facilement les liens, et quand nous sommes domptés par la maladie, il nous semble possible de remplir des engagements que repousse le retour de notre vigueur première. Il y avait des instants où le pauvre Taleva pensait que l'accomplissement de la promesse faite à Bessie était de beaucoup au-dessus de la nature humaine. Il s'était engagé sans savoir ce qu'elle allait demander. Elle aurait bien pu exiger qu'il portât un poids d'une tonne sur ses épaules. Mais il y avait encore d'autres pensées plaidant comme Madame Taleva, outre celle de lui avoir fait une vie difficile. Il voyait la possibilité de pouvoir, avec beaucoup de parcimonie, économiser sur son salaire de quoi payer un second dividende à ses créanciers. Et il sentait qu'il ne lui serait pas facile de trouver ailleurs une place qu'il fût en état de remplir. Il avait mené une vie commode, ordonnant beaucoup et travaillant peu, et n'était point apte à quelque nouvelle affaire. Il aurait pu peut-être prendre un travail à la journée, et sa femme serait aidée alors par ses sœurs. Perspective qui lui était doublement amère, maintenant qu'elles avaient laissé vendre toutes les choses précieuses de Bessie, probablement parce qu'elles tenaient à l'indisposer contre lui, en lui faisant sentir que c'était lui qui l'avait réduite à cette condition. Il écouta leurs discours et leurs conseils, quand elles vinrent lui représenter ce qu'il était tenu de faire à cause de la pauvre Bessie, les yeux fixés ailleurs et leur lançant de temps à autre des regards foudroyants lorsqu'elles avaient le dos tourné. La frayeur d'avoir besoin de leur aide pouvait seule lui rendre supportable l'ennui de recevoir leurs conseils. Mais la plus forte de toutes les influences fut l'amour de cette vieille habitation qu'il avait parcourue quand il était jeune garçon, justement comme Tom l'avait fait après lui. Les Taleva avaient vécu dans ce lieu depuis plusieurs générations, et il s'était souvent assis sur un tabouret pendant les longues soirées d'hiver à écouter son père parler du vieux moulin à moitié en bois qui existait avant que les grandes inondations l'eussent tellement endommagé que son grand-père dut l'abattre et en construire un autre. Ce fut lorsqu'il se trouva en état de marcher et d'aller revoir tous ses anciens objets qu'il sentit la puissance de cette vive affection pour la vieille maison, comme faisant partie de sa vie même. Il ne pouvait supporter la pensée de vivre dans un autre endroit que celui-ci, où il connaissait le son de chaque porte extérieure ou intérieure, et appréciait la forme et la couleur de chaque toit, de chaque teinte produite par le temps, de chaque mouvement de terrain, parce que ses sens s'en étaient nourris en se développant. Le mode d'éducation actuel, qui nous laisse à peine le temps d'errer le long des sentiers de nos campagnes, mais nous pousse de bonne heure vers les tropiques et nous fait nous trouver à l'aise au milieu des palmiers et des bananiers, cette instruction qui nous nourrit de livres de voyage et étend le champ de notre imagination jusqu'aux Zambèzes, peut à peine nous donner une idée, même confuse, de ce qu'un homme aux habitudes invétérées comme Taleva éprouvait pour ce lieu où tous ses souvenirs étaient concentrés, et où la vie ressemblait à un outil familier dont la main saisit le manche poli avec une agréable facilité. C'est dans ce moment qu'il vivait, de ses frais souvenirs des temps éloignés qui nous reviennent pendant les heures inactives d'une convalescence. « Hé, Luke, » dit-il une après-midi qu'il regardait par la porte du verger, « je me rappelle le jour où l'on planta ces arbres. Mon père était un homme incroyable pour planter. C'était comme une réjouissance pour lui que de se procurer une charrette pleine de jeunes arbres. Et j'avais coutume de rester à ses côtés, au froid, et de le suivre partout, comme un chien. » Puis il se retourna, et s'appuyant contre le montant de la porte, il regarda les bâtiments en face. « Le vieux moulin me manquerait, je crois, Luke. Il y a une histoire qui dit que lorsque le moulin change de main, la rivière est en colère. J'ai souvent entendu mon père la répéter. On ne peut savoir s'il n'y a point là quelque chose de vrai, car ce monde est bien compliqué, et le vieux Harry y met son doigt. Il a été trop fort pour moi, à ce que je sais. » « Ah, monsieur, dit Luke, avec une sympathie consolante, qu'est-ce, comparé à la rouille sur le blé, ou le feu aux gerbes et autre chose que j'ai vu dans mon temps. Les choses paraissent quelquefois singulières. Voilà le lard de notre dernier porc qui est aussi mou que du beurre. Il ne fait que vous chatouiller le gosier. » C'est comme si c'était hier, continua M. Taleva, que mon père commença à faire du malt. Je me rappelle que le jour où l'on acheva le bâtiment à Maltais, je pensais que cela devait produire quelque chose de grand. Nous eûmes ce jour-là un plum pudding et un meilleur repas. Et je dis à ma mère, c'était une femme aux yeux noirs, ma mère, la petite lui ressemblera comme deux pois. Ici, M. Taleva mit sa canne entre ses jambes et prit sa tabatière pour jouir davantage de cette anecdote qui sortait de ses lèvres par fragments, comme si la vision du réel interrompait de temps en temps la narration. J'étais un petit garçon pas beaucoup plus haut que les genoux de ma mère. Elle aimait profondément ses enfants, Gritty et moi, et alors je lui dis « Mère, est-ce que nous aurons du plum pudding tous les jours à cause de la maison du malt ?» Elle avait coutume de me répéter cela jusqu'à son dernier jour. C'était encore une jeune femme, ma mère, quand elle mourut. Mais il y a bien 40 bonnes années que l'on a fini le bâtiment à Maltais, et il y a eu bien peu de jours depuis ce temps où je ne l'ai regardé, en premier lieu le matin, là dans cette cour, par tous les temps, du commencement à la fin de l'année. Je perdrai la tête dans un nouvel endroit. Je serai comme un aveugle qui ne connaît plus son chemin. C'est toujours dur, de quelque côté que je regarde. Le harnais me blessera, mais ce sera quelque chose de tirer la charrette sur une ancienne route plutôt que sur une nouvelle. Ah, dit Luke, vous serez bien mieux ici que dans un nouvel endroit. Je ne puis supporter les nouveaux endroits moi-même. Les choses y sont toujours singulières. On y voit des charrettes à roues étroites, et les bornes sont d'une autre espèce, et on y mange du gâteau d'avoine dans quelques villages vers le haut de la Flosse, par là-bas. C'est une triste affaire que de changer de demeure. Mais je crois, Luke, qu'ils voudront se débarrasser de Ben, et vous faire vous arranger d'un jeune garçon. Et il faudra que j'aide un peu au moulin. Votre place ne sera pas si bonne. Qu'est-ce que cela fait, monsieur? Je ne m'en tourmenterai pas. J'ai été avec vous pendant 20 ans. Vous ne pourriez pas plus les faire revenir en sifflant ces années que vous ne pourriez ainsi faire croître des arbres. Il faut attendre que le Dieu Tout-Puissant les fasse pousser. Je ne puis supporter une nouvelle nourriture ou de nouvelles figures. Je ne le puis. Vous ne savez jamais si elles ne vous agaceront pas. La promenade, après cela, se termina en silence, car Luke s'était déchargé de penser à un point qui laissait ses ressources de conversation au dépourvu, et M. Taleva était retombé de ses souvenirs dans une pénible méditation sur le choix entre les difficultés qui s'offraient à lui. Maggie remarqua pendant le thé qu'il était plus distrait que d'habitude. Et après ce repas, il s'assit penché en avant sur son fauteuil, regardant par terre, remuant les lèvres et secouant de temps en temps la tête. Puis il porta les yeux fixement sur Mme Taleva, qui tricotait en face de lui. Et Maggie, penchée sur sa couture, s'aperçut avec angoisse qu'il se passait quelque drame dans l'esprit de son père. Tout d'un coup, il saisit le tisonnier et brisa avec force un gros charbon. « Bonté du ciel, Monsieur Taleva! À quoi pensez-vous donc ?» dit sa femme tout alarmée en levant les yeux. « C'est être bien prodigue que de briser ainsi le charbon quand nous en avons à peine encore quelques gros morceaux, et que je ne sais pas d'où il pourra nous en venir d'autres. « Je crois que vous n'êtes pas tout à fait aussi bien portant ce soir, père, » dit Maggie. « Vous paraissez mal à l'aise. »« Pourquoi Tom ne revient-il pas ?» dit M. Taleva avec impatience. « Ce cher enfant, est-ce l'heure ? Il faut que j'aille chercher son souper, » dit Mme Taleva, en posant son tricot et quittant la chambre. « Il est près de 8h30, » dit M. Taleva. « Il sera bientôt ici. » « Va me chercher la grosse Bible et ouvre-la au commencement, là où tout est noté, et apporte la plume et l'encre. » Maggie obéit avec étonnement. Mais son père ne lui donna point d'autre ordre et resta assis à écouter si les pas de Tom se faisaient entendre sur le gravier. Et paraissant irrité par le vent qui s'était levé, il mugissait de manière à étouffer tous les autres bruits. Il y avait dans ses yeux une lueur étrange qui effrayait presque Maggie. Elle commença aussi à désirer que Tom revînt. « Le voici enfin, » dit M. Taleva d'un air agité, quand un coup se fit entendre à la porte. Sa mère sortit à la hâte de la cuisine en disant « Reste là, Maggie, je vais ouvrir. » Mme Taleva commençait à craindre un peu son fils, mais elle était jalouse de tous les services que d'autres pouvaient lui rendre. « Ton souper est servi près du feu de la cuisine, mon garçon, » dit-elle en lui prenant son chapeau et son manteau. « Tu le mangeras seul comme tu aimes à le faire, et je ne te parlerai pas. « Je crois que mon père demande Tom, mère, » dit Maggie. « Il faut qu'avant de souper, il vienne au parloir. » Tom entra avec son air de tristesse habituel le soir, mais ses yeux tombèrent immédiatement sur la Bible ouverte et sur l'encrier, et il regarda avec surprise son père, qui lui dit « Allons, allons, tu arrives tard, j'ai besoin de toi. » « Y a-t-il quelque chose de nouveau, mon père ?» dit Tom. « Asseyez-vous, tous, » dit M. Tarleva d'un ton péremptoire. « Et toi, Tom, mets-toi ici. J'ai quelque chose à te faire écrire dans la Bible. » Ils prirent tous place en le regardant. Il commença alors à parler, examinant d'abord sa femme. « Je me suis décidé, Bessie, et je tiendrai la parole que je t'ai donnée. La même tombe est préparée pour nous deux, et nous ne devons pas nous en vouloir mutuellement. Je resterai dans mon ancienne demeure, et je servirai sous Wakeham. Je le servirai en honnête homme. Il n'y a aucun Tarleva qui ne l'ait été. Rappelle-toi cela, Tom. » Ici, sa voix s'éleva. « On me jettera à la face que je n'ai payé qu'un dividende. Mais ce n'a pas été ma faute. C'est parce qu'il y a des coquins dans le monde. Ils ont été trop forts pour moi, et il faut que je cède. Je mettrai mon cou dans le harnais, car tu avais raison de dire que je t'ai mise dans l'infortune, Bessie, et je le servirai en honnête homme, comme s'il n'était pas, lui, un coquin. Je suis un honnête homme, quoique je ne puisse plus lever la tête. Je suis un arbre brisé, un arbre brisé. » Il s'arrêta et regarda par terre. Puis, levant tout d'un coup la tête, il dit d'un ton plus haut et plus profond, « Mais je ne veux pas lui pardonner. Je sais ce qu'on dit, qu'il n'a jamais voulu me faire de mal. C'est ainsi que le vieux Harry soutient les coquins. Il a été au fond de tout. Mais c'est un beau monsieur. Je le sais, je le sais. Mais à qui est la faute qu'il n'y ait pas eu moyen d'avoir un arbitrage ou d'obtenir la justice? Ça ne lui fait rien à lui. Je sais cela. C'est un de ces beaux messieurs qui gagnent de l'argent en faisant les affaires de gens plus pauvres qu'eux, et qui, lorsqu'ils en ont fait des mendiants, leur font la charité. Je ne lui pardonnerai pas. Je désire qu'il soit puni par la honte, au point que son propre fils désire l'oublier. Je souhaite qu'il fasse quelque chose qui le mène aux travaux forcés. Mais il ne le fera pas. C'est un trop grand coquin pour laisser la loi avoir prise sur lui. Et fais attention à ceci, Tom. Ne lui pardonne jamais, si tu as l'intention d'être bon fils. Il viendra peut-être un temps où tu pourras le lui faire sentir. Ce temps ne sera jamais pour moi. J'ai la tête sous le joug. À présent, écris, écris dans la Bible. « Oh, mon père, quoi ?» dit Maggie, tombant à ses genoux, pâle et tremblante. « C'est un péché que de maudire et désirer du mal. »« Ce n'est pas un péché, je te le dis, » répliqua fièrement son père. « C'est un mal que les coquins prospèrent. C'est l'œuvre du diable. Fais ce que je te dis, Tom, écris. »« Que dois-je écrire, père ?» dit Tom avec une sombre soumission. « Écris que moi, ton père, Edward Tarleva, ai consenti à prendre du service sous John Wakeham, l'homme qui a aidé à me ruiner, parce que j'avais promis à ma femme de lui faire la réparation possible pour son infortune, et parce que je désirais mourir dans la vieille maison où j'étais né ainsi que mon père. Mets cela dans les termes convenables, tu sais comment, et ensuite écris que pour tout cela, je ne pardonne pas à Wakeham. » Et que, malgré que je veuille le servir honnêtement, je désire qu'il lui arrive malheur. Écris cela. » Il y eut un morne silence, tandis que la plume de Tom courait sur le papier. Madame Tarleva paraissait atterrée, et Maggie tremblait comme une feuille. « À présent, lis-moi ce que tu as écrit, » dit M. Tarleva. Tom lut lentement, à haute voix. « Maintenant, mais encore, que tu te rappelleras ce que Wakeham a fait à ton père, et que tu le lui feras sentir à lui et au sien, si jamais tu le peux. Et signe ton nom, Thomas Tarleva. » « Oh, mon père, cher père, » dit Maggie, presque suffoquée par la terreur, « vous ne devriez pas faire écrire cela par Tom. Tiens-toi tranquille, Maggie, » dit Tom. « Je l'écrirai. » Fin du premier volume.